C'est vraiment une immense, immense joie pour moi, et je pense pour beaucoup d'entre nous qui connaissons Aude et David, de pouvoir vous accueillir.
Bonjour, on est sur le départ de la région, pour ceux qui ne le savent pas. On a fini notre mandat pastoral au Loc fin janvier, après 12 ans de ministère là-bas, et puis on s'apprête à partir sur le Canada. Le 9 avril, on décolle pour le Canada. On prend une année sabbatique entre le Québec et les États-Unis et peut-être d'autres choses, on verra. Dieu lui sait, nous on ne sait pas tout, mais on sait se conduire. Donc on se réjouit. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait 3 mois à Montréal dans l'église de David Potier, l'église de la Chapelle. Comme observateur, juste profiter de vivre l'église avec eux, puis en même temps visiter d'autres églises et d'autres lieux en même temps. Et puis après, on verra. On verra ce que Dieu va faire pour nous par la suite. Merci. Avant que Aude prêche, j'avais juste à cœur de vous encourager. Pendant ce temps de louange, j'étais vraiment encouragé déjà avant le chant inspiré de Sandia, c'est ça ton prénom ? Sandia. Avant ce chant, vraiment je sentais que Dieu voulait nous et vous rappeler l'héritage qui est sur cette église et qui est sur nos vies. En ton nom, nous pouvons tout. C'est pas nous-mêmes. C'est pas nous en tant qu'êtres humains, mais c'est au nom de Jésus. Et il y a un héritage, je crois vraiment, il y a un héritage sur vous, l'église de Réveil, qui n'est pas juste « Waouh, c'est beau ce que Dieu a fait, la fondation de l'église. Waouh, c'est beau, on s'appelle l'église de Réveil. » Non, il y a un héritage. Et cet héritage-là, il est appelé à se multiplier. Si personne reprend le flambeau de Dieu, si personne reprend le manteau de Dieu, alors ce manteau, il va rester au vestiaire. Mais si vous le prenez, les gens verront la gloire de Dieu. Et je voyais comme si Dieu voulait dire, mais levez-vous pour cette ville-là, Chaux-de-Fonds, pour cette région. Mais toute génération confondue. Là, moi, les jeunes, je suis bluffé, quoi. Vous avez le feu, on voit que vous aimez Dieu de tout votre cœur. Puis vous, les plus âgés, je sais votre vie de prière. Moi, je suis encouragé par votre église, les réunions de prière que vous avez, les réunions d'aînés. Nous, on n'a pas ça chez nous. C'est ton étude biblique, quoi. Chez nous, où on était avant. Il y a tellement, tellement à gagner. Mais il y a un héritage pour cette ville, la Chaux-de-Fonds, et cette région des montagnes de Châteloise. Les gens ont besoin de voir la gloire de Dieu. Les gens ont besoin de voir un Dieu qui agit et pas une église qui parle. Vous savez, il y a différentes sphères dans l'église. Et je crois de plus en plus que la réunion de prière, où on se fait du bien entre nous, on s'écoute les uns des autres, où on prend soin les uns des autres, on se fortifie les uns des autres, c'est bon pour les groupes de maison. Mais je crois de plus en plus que les célébrations du dimanche et que la vie d'église, elle doit être à la portée de tout le monde et du visiteur qui vient, il ne doit pas se dire où c'est bien ce qu'ils vivent entre eux dans leur truc. Et donc on doit avoir une dimension d'église qui fait envie et qui amène le royaume de Dieu. Dans nos célébrations du dimanche, mais aussi à l'extérieur. Et on n'est pas là pour être entre nous, à faire nos petits trucs entre nous. C'est tellement bon, oui, parce qu'on a besoin de se fortifier, mais c'est pour ça qu'il y a différentes sphères, et je crois de plus en plus. Et je crois que vous, l'église de Réveil, vous avez un héritage qui a été donné pour manifester la gloire de Dieu. Il n'y a pas tant d'églises dites charismatiques sous ces montagnes de Châteloise. Et portons les charismes de Dieu. Portons-les pas juste dans nos titres, mais dans ce que nous sommes. Et amenons ces charismes de Dieu. Ça ne veut pas dire commencer à faire du shabalabalabala dans la rue. C'est pas ça. C'est manifester la gloire de Dieu. Et c'est prier pour des malades. C'est apporter des paroles de connaissance, des paroles d'encouragement. C'est encourager les gens. Et être une église qui est ouverte aux autres de plus en plus. Et c'est ce que j'ai envie de vous encourager ce matin. Si on peut vous laisser ça d'aujourd'hui et de notre départ de cette terre châteloise. Moi, c'est vraiment ce qui chantait sur mon cœur pour vous. Il y a quelque chose qui... Ça fait longtemps que vous le savez que ces locaux sont trop petits. Ça fait longtemps que vous cherchez autre chose. Mais vraiment, moi, je crie à Dieu pour que vous trouviez non seulement des nouveaux locaux, mais en plus un espace vraiment de bénédiction pour cette région, quoi. Amen. Voilà, je vous laisse avec la plus belle des femmes du monde. La plus audacieuse et la plus merveilleuse. ma chérie.
Bonjour. Est-ce que c'est enregistré, ça fonctionne, tout va bien? Je voudrais juste être sûre que votre pasteur va écouter ça après, parce que comme ça, il pourra me dire « Mais Nat, t'as fait n'importe quoi, ça va pas. » Il osera me le dire. Estelle, c'était ma témoin de mariage. Donc on est comme ça proche. Si vraiment il trouve que j'ai dit n'importe quoi, il osera me le dire. Et puis, osez lui dire si vous trouvez que je fais n'importe quoi. Je suis audacieuse, ça c'est vrai. J'allais dire je suis prophétique. Et quand je prépare un message, la première chose que je fais, c'est que d'abord je vais dans les bras de mon papa, parce que de toute façon c'est lui qui sait ce qu'il faut vous dire. Et ensuite je lui demande, Dieu le Père, qu'est-ce que tu veux transmettre à cette église ? Une fois que j'ai une réponse, je la note, et après je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux transmettre à cette église ? Une fois que j'ai une réponse, je la note, et après je dis, Jésus, qu'est-ce que tu veux transmettre à cette église ? Et une fois que j'ai une réponse, je la note. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué comme procédure. Ça fait que des fois, j'ai des messages qui vont peut-être vous paraître un peu décousus, c'est-à-dire que je vais pas vous dire point 1, petit A, petit B, petit C, point 2, petit A, je suis pas comme ça. Mais normalement, vous devriez pouvoir recevoir ce que Dieu veut transmettre ce matin quand même. Pour vous et pour l'Assemblée. La première chose que Dieu le Père m'a dite quand j'ai préparé... Je suis désolée, ça me perturbe d'avoir ce micro auprès de moi. La première chose que Dieu le Père m'a... Enfin, que j'ai reçue, c'est ce cri du Père qui vous demande, s'il vous plaît, de le connaître pour qui il est et pas seulement pour ce que sa parole dit. C'est-à-dire que Dieu ne vous demande pas de connaître à son sujet. Dieu ne vous demande pas de connaître ses principes et les lois. Vous les connaissez déjà très bien d'ailleurs. Dieu ne vous demande pas seulement de connaître sa parole. Dieu vous demande de connaître son cœur. Pour ceux d'entre nous qui sommes assez privilégiés pour avoir grandi auprès de nos parents, on connaît par cœur leur cœur. On sait exactement comment ils vont réagir dans une situation donnée. Combien de fois je dis à mon mari, « Mon Dieu, si ma mère était là, elle pèterait un plomb. » Parce que je sais quelles sont ses valeurs, mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas juste une question de valeur, c'est une question de réaction émotionnelle. C'est une question de cœur. Vous comprenez de quoi je vous parle ? Quelqu'un qu'on connaît très bien, que ce soit nos parents ou pas, ça peut être notre conjoint, ça peut être notre meilleur ami, ça peut être nos enfants, on sait comment ils vont réagir dans quelle situation. Il y a quelque chose de prévisible, pas parce qu'ils sont prévisibles et puis que c'est des gens fades, mais parce que nos cœurs sont tellement connectés, tellement proches, qu'on sait. Vous sentez de quoi je vous parle ? Il y en a 3 qui me disent oui, donc c'est bon. C'est ce que Dieu le Père vous demande. Vous savez tellement de choses à son sujet. Vous connaissez tellement bien sa parole. Mais son cœur, de retrouver son cœur là au milieu, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça veut pas dire que l'un est moins bien que l'autre. Hein. J'ai pas du tout dit arrêtez de lire la Bible et fichez loin les principes. C'est pas du tout ce que je dis. Mais Dieu appelle à cette connexion de nouveau avec son cœur. Dieu le Père appelle à cette connexion de nouveau avec son cœur. Et la Bible dit, par exemple, évidemment, c'est le verset que je n'ai pas noté, mais c'est dans une des salutations de Paul, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu le Père. Grâce et la paix vous soient multipliées, c'est de ma faute, j'ai fait trop fort, multiplier, c'est pas additionner, c'est pas un petit peu plus, c'est multiplier par la connaissance de Dieu le Père. Et dans la Bible, le terme connaissance, c'est le terme qu'a aussi donné gynécologue, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une connaissance vraiment très 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 intime, c'est-à-dire plus intime, c'est pas possible en fait. Parce qu'en tout cas, moi, quand je vais voir le gynécologue, il n'y a personne d'autre qui me regarde comme ça. Hein. Je ne sais pas vous, mais enfin, bon, les hommes, ça ne leur parle peut-être pas. Mais... C'est une connaissance tellement intime que la grâce et la paix nous sont multipliées. Nous avons besoin de connaître Dieu pour qui il est, parce que c'est en sachant qui il est que nous comprenons qui nous sommes et que nous pouvons entrer dans cette multiplication de grâce et de paix qui font une différence autour de nous. Bon, je vais prendre un risque. Je connais des héros dans votre assemblée. Mon héros préféré dans votre assemblée, c'est Dora. Voilà, j'étais sûre que tu allais réagir comme ça, le fait. De quoi elle parle ? Parce que je vois toujours Dora sourire. Chaque fois que je la regarde, elle sourit. Et je sais qu'elle est une personne tout à fait normale et qu'elle a des défis et qu'elle a des moments où elle se dit « j'en ai marre » et qu'elle a des moments où, en fait, moi, j'aurais pas envie de sourire. Je suis sûre que si je demande à son mari et ses enfants, ils vont me dire « non, mais elle sourit pas tout le temps, hein. Ça, c'est sûr. Hein. » Mais moi, je ne l'ai jamais vu autrement que aborder... non, ce n'est pas aborder, c'est comment ? Porter ce sourire sur elle qui me dit à moi, peut-être que ce n'est pas ça que tu dis, hein, mais moi, ce que je reçois quand je te vois sourire, c'est « Dieu va le faire. » On va y arriver, Dieu va le faire. On va réussir à pousser cette porte, on va réussir à passer cette montagne. Moi, c'est ce que je vois sur ce que porte Dora. Désolée, je ne voulais pas te faire pleurer. Mais pour moi, c'est héroïque de réussir à porter ça dans un monde qui est exactement... Enfin, le monde de Dora, c'est le même que le mien. C'est un monde dans lequel, des fois, ça ne se passe pas comme on aurait voulu. Et il faut quand même porter Dieu là au milieu. Pour moi, ce qu'elle me transmet, c'est cette connaissance du cœur de son papa qui va le faire, qui va réussir à pousser là où il faut et retenir là où il faut, qui va réussir à obtenir pour elle ce dont elle a besoin. Moi, c'est ce que je lis sur elle. Bon, elle ne savait pas, donc voilà. Je te demande pardon si je t'ai mise mal à l'aise. Nous avons besoin de connaître le Père de cette façon qu'aucune épreuve peut nous mettre complètement par terre. On connaît si bien ce passage qui dit « Nous sommes pressés mais non écrasés, persécutés mais non abandonnés ». Il n'y a que en connaissant le Père qu'on peut effectivement le vivre. Est-ce qu'il n'y a que moi qui me suis déjà sentie trahie dans la vie ? Non, manifestement pas du tout. Là, il y en a plus que trois qui réagissent. La trahison, par essence, ça fait très mal parce qu'on ne s'y attend pas. Parce que si on s'y attend, ce n'est pas une trahison. Bon. Du coup, on est dans un chemin de paix, dans une relation, tout va bien, et tout à coup, paf, on est sabré. C'est le truc parfait pour nous mettre absolument par terre. Et surprise des surprises, c'est ce que Jésus a vécu. Parce qu'il savait, il a dit à Judas, « Va faire ce que tu as à faire. » Il savait. Mais pendant 3 ans, il a marché avec lui en ami. Moi, je crois que cette part de lui qui était Dieu savait et était prête à assumer ce que ça voulait dire. Mais je crois que cette part de lui qui était homme, ça a dû lui faire fichtrement mal. Et pourtant, il l'a traité avec respect jusqu'au bout. Et il a fait ce que lui, il avait à faire, sans se préoccuper de ce que l'autre avait à faire. Wow ! Comment on peut faire ça autrement qu'en connaissant le cœur du Père ? Récemment, j'ai vécu une situation où je me suis sentie trahie. Et à un moment donné, je disais à Dieu, « Oh, mais Dieu, tu es bon !» parce que j'essayais de me focaliser plus sur Dieu que sur ce qui m'arrivait. Et Dieu, il m'a dit, je lui ai dit, « Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi. » Et il m'a dit, « Oui, je suis aussi bon pour lui. » Oui, mais ça, je m'en fiche. Non. Mais je m'en fiche pas tant que ça. C'est vrai. Il est aussi bon pour celui dont je me suis sentie trahie. Et ça change pas. Parce que moi aussi, je fais des grosses bêtises et je dis des grosses bêtises des fois. Moi aussi, ça m'arrive de faire que les gens se sentent trahis par moi alors que ce n'est pas du tout mon intention. Ben, ça n'arrive certainement qu'à moi. Hein. Parce qu'ici, il n'y a personne qui dit des bêtises, ça, je suis sûre. Et Dieu continue d'être bon pour moi. Peut-être plus que moi-même. Ce matin, pendant la louange, quelqu'un a prié et a dit « Tu es le Dieu qui nous précède », entre autres. Mais cette phrase, elle est restée vers moi, dans mon oreille, parce que je me suis dit « Mais c'est incroyable, il est Dieu qui nous précède, qui ouvre la voie pour nous, et il est aussi le Dieu qui nous suit. » Mais c'est vrai, c'est écrit qu'il assure notre arrière-garde. Vous savez que c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que quand je fais une bêtise, il paye les pots cassés. Mais il ne le fait pas que pour moi. Hein. Il le fait aussi pour vous. Et je crois que ça fait partie de ce que Dieu aimerait vous transmettre ce matin. C'est que la culpabilité, c'est la partenaire de son ennemi, pas la sienne. La culpabilité, c'est la partenaire de l'ennemi de Dieu, pas de Dieu. Et en fait, à partir du moment où on autorise la culpabilité à nous bloquer, à nous paralyser, à nous faire taire, à nous ralentir, on laisse l'ennemi jouer dans notre cour. Complètement. Parce que Dieu, quand il a besoin de me dire « Dis-moi ma fille, tu crois pas que tu t'es un peu trompée ?» Il me le dit jamais de façon à ce que je sois paralysée, bloquée, que je me rejette moi-même. Jamais. Parce qu'il est bon. Il est tellement bon que lui, il sait faire ça mieux que moi. Moi, j'arrive pas. Encore ce matin, je disais un truc à mon mari, puis après, je me suis dit, mais je suis vraiment pas cool, quoi. N'importe quoi. Je lui ai demandé pardon, déjà. Parce que je sais pas, moi, faire comme Dieu, de régler un problème sans mettre l'autre mal à l'aise. Des fois, j'y arrive, mais des fois, pas. Mais je suis la seule, je sais, vous savez faire. Je parle de n'importe quoi. La culpabilité, c'est un poids qui n'a rien à faire dans nos églises, dans nos vies, dans nos familles. La culpabilité, c'est un poids qu'on ne peut pas continuer d'accepter. Vous savez pourquoi ? Parce que le message de Jésus pour vous ce matin, c'est « Donnez-moi voir ce pourquoi j'ai payé. Ce pourquoi j'ai payé avec mon sang. J'ai pas payé sur la croix pour que vous vous disiez « Ah, mais j'ai encore fait une bêtise parce que le standard de Dieu, il est trop élevé pour moi. » La bonne nouvelle, c'est qu'il était au courant quand il a posé le standard. Il était au courant qu'on ne pouvait pas y arriver. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Parce que lui, il paye pour la différence entre ce que moi je fournis et ce qu'aurait été l'idéal de Dieu. Mais si quelqu'un arrivait à l'idéal de Dieu, alors il y aurait un problème. C'est arrivé à un homme, il s'appelait Enoch, il a été enlevé par Dieu. Il a dit non, celui-là il est trop bon, je le prends. Oui, terminé. Non, c'était pas comme ça, mais c'est écrit quand même. Il marchait selon le cœur de Dieu et un jour Dieu l'a enlevé. Voilà, on ne sait pas comment ça s'est passé. Il est parti. Donc nous tous qui sommes sur terre, on sait que le standard de Dieu, l'idéal de Dieu, il est juste trop haut. Pourtant, il nous dit « Soyez saints comme je suis saint ». Parce que ce qu'il cherche de nouveau, c'est pas tellement nos valeurs, c'est pas tellement ce que les gens disent de nous, c'est pas tellement ce qui se passe dans notre famille. Ce qu'il cherche, c'est notre cœur. Notre cœur. En élevant mes enfants, j'essaie de leur transmettre, j'espère que j'y arrive, on verra quand ils seront grands, j'essaie de leur transmettre que ce qui m'intéresse, c'est pas s'ils ont fait juste ou s'ils ont fait faux, c'est s'ils ont fait de leur mieux. Même si leur mieux, des fois, il est moche. Mais ça m'arrive de dire à mon fils aîné, Joshua, il a un sens de la justice très élevé, et il est capable de se démonter lui-même déjà du haut de ses 5 ans en disant « Mais c'était pas bien ce que j'ai fait, bah. » Et combien de fois je lui dis « Mais Joshua, t'as fait ce que tu pouvais. T'as 5 ans, il y a des choses que tu comprends pas encore, il y a des choses que tu apprends encore, c'est normal. Il y a des adultes qui font pas mieux. Et le fait que tu sentes que c'était pas juste, mais c'est tellement bon. En fait, c'est un succès. Parce que comme tu as vu que ce n'était pas la meilleure idée, ben peut-être que la prochaine fois, ou la fois d'après, ou peut-être encore une fois plus tard, mais à un moment, tu vas finir par y arriver. Je crois que c'est comme ça que Dieu nous traite. Et je crois que c'est pas comme ça que nous, on se traite. Je crois que c'est trop facile pour nous de nous dire « Ah, ça y est, j'ai joué, j'ai perdu. Vous êtes le maillon faible, au revoir. » Et c'est tout sauf ce que Dieu veut nous dire. C'est tout sauf ce que Dieu veut nous transmettre. C'est tout sauf ce qu'il a pour nous. Parce que vous savez quoi ? C'est exactement de ça que le monde a besoin. De voir que c'est OK de faire des erreurs et qu'on est quand même aimé. C'est exactement de ça que la Chaux-de-Fonds a besoin. De voir qu'on a le droit de se tromper et on a le droit de continuer à s'aimer et on a le droit de continuer à se savoir aimer. C'est exactement ça dont il y a besoin ici dans cette région. Le droit à l'erreur. Et comment on le trouve ailleurs que dans le cœur du Père ? Nous qui sommes ici dans une culture de la perfection, de la précision. C'est pas faux, mais ça devient faux au moment où ça nous paralyse, où ça nous empêche de dire « je prends un risque ». Parce que forcément qu'il y aura de l'imperfection dans le risque qu'on prend. Ça, c'était le message de Dieu le Père et de Jésus. Le Saint-Esprit, lui, il m'a dit « c'est pas si difficile en fait ». C'est pas si difficile. Je crois que dans les églises, quand on parle d'intimité avec Dieu, je crois qu'il y a quelque chose de difficile à saisir, parce que on s'attend, enfin, en tout cas moi, j'entends beaucoup prêcher, venez dans les bras du Père, passez du temps avec lui. Et en tout cas moi. Il y a un moment où juste rester blotti dans les bras de mon mari, c'est cool, mais si on peut faire autre chose, c'est bien aussi. Et je ne parle pas forcément de câlins et d'intimité sexuelle, mais juste de faire quelque chose ensemble. Mon mari, lui, sa meilleure façon de prier, c'est d'aller marcher. C'est son meilleur moment d'intimité avec son père. Il va, il marche dans la forêt ou ailleurs, là où il peut. Et puis, il parle à Dieu en même temps. On n'a pas besoin d'être immobile pour être dans l'intimité. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit reconquérir. J'avais préparé tout un message que du coup, je n'ai pas donné parce que c'est toujours comme ça. Et une fois que j'ai eu fini de préparer mon message, j'ai dit, j'ai l'impression, Dieu le Père, qu'il me manque quelque chose, que tu as encore un truc que tu veux dire à cette assemblée. Et il m'a dit, j'aimerais que cette assemblée vienne récolter le miel avec moi. Est-ce que vous avez déjà vu un apiculteur travailler ? Moi, je n'ai jamais vu ailleurs que dans des documentaires ou comme ça, je n'ai jamais vu en direct. Mais en tout cas, je sais que c'est actif. On ne reste pas assis à regarder le miel tomber dans nos écuelles, quoi. Je ne crois pas que Dieu attend de cette assemblée une intimité immobile où on s'ennuie. Finalement, il faut oser dire les choses. Enfin, au bout d'un moment, Dieu le Père, t'es gentil, mais moi, j'ai plein de trucs qui bouillonnent. J'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des trucs. Et c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'intimité. Viens récolter le miel avec moi. Il y a tellement de choses dans cette phrase. Le miel. Le miel, c'est un truc. C'est quand même un truc dingue. D'abord, le miel, ça guérit. Vous saviez ça ? Il paraît que c'est l'un des meilleurs shampoings. Je n'ai pas envie d'essayer, mais il paraît que c'est l'un des meilleurs shampoings. Avec les œufs, ouais. Enfin, il y a des recettes de shampoings. De nos jours, c'est super la mode. Il faut utiliser des produits naturels. Blablabla. Dans presque toutes les recettes de shampoings que vous allez lire, il y aura du miel. Le miel, donc ça lave, ça soigne. C'est bon. Juste, c'est bon. C'est super bon pour la gorge, ça désinfecte. Donc ça parle aussi du soin de notre voix. Et notre voix, c'est beaucoup plus que juste ce qu'on dit, mais c'est aussi ce qu'on porte. Quand on veut être une voix pour ceux qui ne peuvent pas parler, il y a quelque chose de fort dans le fait d'avoir une voix. Et le miel, c'est par essence le fruit pour lequel on ne peut vraiment pas grand-chose. Parce que ce n'est pas nous qui faisons le travail pour le miel. À la limite, un verger, on a pris soin de l'arbre. Bon, d'accord, on prend soin des abeilles, mais on récolte vraiment le fruit du travail de quelqu'un d'autre quand on prend du miel. Et on est pleinement au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Les abeilles, si elles avaient décidé que c'était hors de question que les humains utilisent leur miel, on n'y arriverait pas. Hein. Parce qu'un essaim d'abeilles qui se met en colère, même un apiculteur, je crois qu'il ne peut pas faire grand-chose. Hein. Donc c'est dans l'ordre des choses de Dieu que l'homme peut utiliser le miel qui est fabriqué par quelqu'un d'autre que l'homme. C'est typiquement un exemple de la création qui travaille sous l'ordre de Dieu pour le bénéfice en partie de l'homme. Je sais que c'est pour le bénéfice de la création entière, hein, mais viens récolter le miel avec moi. T'es au courant que c'est pas le fruit de tes efforts ? Que cette intimité-là, que cette paix, que cette sécurité émotionnelle, c'est pas le fruit de ton travail. Donc la prochaine fois que tu dis « Ouais, mais tu vois, j'avais pas assez prié, alors forcément, c'est un mensonge !» La vérité, c'est que Dieu donne toute bonne chose à celui qui s'attend à lui et qui fait au mieux. Bien sûr qu'on ne fait pas parfaitement de nouveau. J'ai peur de vous choquer un peu, mais tant pis. Le Saint-Esprit m'a dit « Et si on allait danser ensemble ?» C'est chouette. Bon, ça va, il y en a qui sont d'accord. C'est cool. « Et si on allait danser ensemble ?» j'entendais pas danser un truc bizarre, genre danser quoi. On met de la musique et on danse et c'est fun. Voilà, c'est tout. Juste c'est fun. Parce que moi je crois qu'on a un Dieu qui utilise la joie comme outil. Je suis pas en train de vous parler de quelque chose de facile, léger, juste parce que c'est facile et léger, mais parce que ça porte un fruit spirituel profond et puissant. Jean-Marc Bigler, qui est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, m'a dit une fois cette phrase-là. Il a dit « Les démons, ils savent plus quoi faire quand on rigole. Ça les perturbe. Ils sont censés faire peur. Et puis, ils arrivent et nous, on rigole et ils savent pas ce qu'ils doivent faire. » La joie, c'est un outil spirituel profond et très puissant. Et il y a des gens que ça énerve. C'est bien, ris autant que tu veux, vas-y. Il y a des gens que ça énerve parce qu'ils ne comprennent pas cette liberté. Parce que c'est un outil de liberté, on ne peut pas rire quand on n'est pas libre. Mais du coup, quand on commence à rigoler, ben la prison ne ferme plus. Si vous énervez des gens parce que vous êtes trop joyeux, c'est une bonne nouvelle. Réjouissez-vous encore plus. Y a tellement de raisons d'aller mal. Dans ma famille, dans l'héritage familial que j'ai, c'est pas normal d'aller bien. Ça se fait pas. C'est pas très poli d'être heureux. Franchement. Parce que bon, on a tellement de raisons d'être malheureux quand même, quoi. C'est vrai. Et j'ai vécu des circonstances familiales traumatiques pour diverses raisons. Et récemment, un des événements spécifiques de ma vie familiale m'a été un petit peu ramené en pleine figure parce que quelqu'un de notre église vit quelque chose de similaire. C'était tout à fait inattendu. J'ai appris ça. J'ai dit, ah, bon, d'accord, je l'ai eu au téléphone. Puis ça a un petit peu ramené toute cette partie de mon histoire. Et je m'écoutais vivre à ce moment-là. Pendant que je parlais avec elle, j'écoutais mon cœur en même temps et je me disais, comment je réagis ? Qu'est-ce qui se passe ? Et à un moment, je me suis dit, c'est pas normal que t'ailles si bien. Non mais vous rendez compte le mensonge ? Mais c'est pas normal que tu sois si tranquille avec ça. Mais c'est pas normal que tu devrais être malheureuse. J'ai dit, bah pourquoi ? Non mais sérieux, pourquoi ? Parce que c'est une histoire horrible. Ben merci, je suis au courant, je l'ai déjà traversée une fois. Mais justement, je l'ai déjà traversé. C'est bon. Jésus l'a déjà payé, on en a déjà parlé ensemble, j'ai déjà renoncé à pas mal de mensonges concernant ça. Pourquoi tu veux que je sois malheureuse de nouveau ? Alors bien sûr, c'est l'occasion de prendre conscience de certaines autres choses où je me dis « Ah ouais, tiens, ça, on n'a peut-être pas... Ok, bon, ben, on peut en reparler, mais est-ce que c'est une raison pour me rendre de nouveau malheureuse ?» Non, je trouve pas. Et parfois, il faut se positionner, du coup. Mais comme je l'ai dit au départ, la culpabilité, c'est la partenaire de notre ennemi. J'étais en train de me rendre coupable d'être heureuse. Non, mais c'est tordu comme truc. Mais pourtant, regardez bien autour de vous et vous verrez que c'est très commun. C'est très commun. Ah ouais, mais tu vois, ma grand-tante, elle vient de perdre son mari, alors tu comprends. Oui, enfin bon, si c'est ta grand-tante, a priori, elle n'est pas toute jeune, donc c'est dans l'ordre des choses, tu ne vas pas te rendre malheureux. Enfin voilà. Oui, pleurer avec ceux qui sont tristes, mais on a aussi le droit de rire avec ceux qui sont joyeux. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit reconquérir. La joie. La simplicité de la vie. On est assez bons, nous les humains, pour rendre les choses vraiment dramatiques, vraiment tristes. Et en plus, tu sais, il y a eu telle circonstance avant, pire. Et puis en plus, tu sais, c'est pas la première fois parce qu'il y a aussi eu ça. Et puis en plus, et puis en plus, et puis en plus, et on noircit les choses, on adore faire ça. Mais qui c'est qui nous a donné la craie, là ? Poubelle ? Moi, je veux pas une craie noire. Hein. Moi, je préfère un bon gros feutre bien blanc. Avec des paillettes, voilà. Vous comprenez ce que j'essaie de transmettre ? Et la dernière chose que Jésus m'a dite, du coup, on a eu une conversation hier soir avec un collègue et ami sur la différence entre être sécurisé et être en sécurité. En fait, pour prendre un exemple biblique, dans la barque avec Jésus au moment de la tempête, les gaillards, ils étaient réellement beaucoup plus en sécurité que sur le rivage. Parce qu'ils étaient avec Jésus. Mais c'était beaucoup moins sécurisant. Quelle est la différence entre ce que mes émotions me disent, ce que mes circonstances me disent, et ce qui se passe en vrai ? Typiquement, pour moi, il y a un millier d'exemples que je pourrais donner, je vais donner celui-là. Je suis en train de terminer d'écrire un roman sur le burn-out. Parce qu'il y a énormément de revues médicales, scientifiques, etc. qui parlent du burn-out, mais que, en tout cas, moi, je n'apprends pas dans ces trucs-là. C'est trop compliqué pour moi, c'est trop point A, point B, point C. Je ne sais même pas comment ça... Je n'arrive pas à suivre quand c'est comme ça. Par contre, quand on me raconte une histoire, j'apprends beaucoup de choses. Et je sais que je ne suis pas la seule. Et du coup, voilà, j'ai commencé à écrire ce roman, je suis bientôt en train de le terminer. C'est un risque monumental. D'abord parce que je n'ai jamais rien écrit avant, en tout cas qu'il soit publié. D'autre part parce qu'écrire un roman, ce n'est pas du tout comme écrire une petite histoire jolie pour les enfants. Et en plus parce que pour écrire quelque chose de crédible, j'ai voulu contacter des professionnels pour me renseigner précisément sur les choses, pour aller vraiment au bout d'une recherche qui porte quelque chose. Et donc, j'ai contacté des psychiatres, j'ai contacté des médecins, j'ai contacté toutes sortes de gens, de professionnels qui traitent le burn-out en disant « Voilà, j'aimerais écrire un roman sur le burn-out et j'aimerais vous poser des questions. » Et je veux dire, je ne suis pas Harlan Coben ou je ne sais pas quel Joël Dicker ou quel auteur super connu. Je suis personne. Personne n'a jamais rien lu que j'ai écrit. Et je les contacte et je dis « Voilà, je voudrais prendre une ou deux heures de votre temps. » Pas gonflé, quoi. Il n'y a personne qui m'a dit « j'ai pas le temps pour vous ». Personne. Ils m'ont tous dit « ouais, alors bon, ça va être compliqué, mais super, on va trouver un moment, on va s'arranger, dans 2 mois, ça joue. » Ben oui, tous, ils m'ont donné leur temps gratuitement. Tous. Et tous, ils m'ont dit « on a besoin d'ouvrages vulgarisés qui parlent du burn-out d'une façon où les gens peuvent s'identifier, parce que ce sera le meilleur outil de prévention ». J'ai pris un risque plus grand, c'était pas possible. En tout cas, pour moi, avec les insécurités que j'ai, c'était un risque énorme. Mais j'ai toujours été bien reçue. Bon, maintenant, il faudra que je sois bien reçue par un éditeur, mais ça, c'est une autre histoire. La différence entre être en sécurité et être sécurisé. Souvenez-vous que le plus grand lieu de sécurité, c'est celui où on prend un risque pour Dieu. Là où on a le plus peur, mais c'est là où on est le plus en sécurité. Dans ma Migros, au Locle, je prie constamment pour les caissières, les gens qui travaillent là. J'ai tout un truc que je vis à la Migros là-bas. Et un jour, je faisais mes courses à la Migros à Chaux-de-Fonds. Ce n'est pas mon territoire. Et arrivé à la caisse, j'ai mis un certain temps à percuter, mais la caissière, elle avait, vous savez, les foulards. Non, c'était peut-être à la COP, c'est égal. Elles sont censées porter un foulard autour du cou. J'ai mis un certain temps à percuter que son foulard cachait une Minerve. Et qu'en fait, elle était un peu comme ça, quoi. Et puis, du coup, j'étais en train de finir d'emballer mes courses. Puis, je lui dis, mais vous avez mal ? Elle me dit, ah, ça tue, c'est juste affreux, ça picote partout. J'espère que je peux finir mon service parce que j'ai déjà eu un arrêt. Puis, faut que je bosse, quoi. Mais j'ai tellement mal, c'est terrible. Je lui dis, ah, ok, bah d'accord. Puis, au moment où je prends la monnaie, je prends sa main au lieu de prendre l'argent. Et je dis, ben, au nom de Jésus, soyez guéri. Parce que Jésus, il vous aime tellement, il est capable de le faire. Amen. Après, j'ai pris l'argent quand même. Mais oh. J'étais en train de remballer. Et puis, je me dis, il faut que je lui demande comment ça va quand même. Ouais, mais là, j'ai l'air con. Parce que si ça ne va pas, ça ne sert à rien, quoi. Franchement. Donc là, je commence à devenir toute rouge, à avoir bien chaud, à avoir le cœur qui palpite, les mains qui tremblent. Et je me dis, tu sais quoi, tu ne la reverras jamais. Allez, vas-y, demande-lui. Alors je lui dis, puis vous vous sentez comment ? Ah ben là ! Ah ben je me sens super bien ! Ah ben c'est trop bien, quoi ! J'ai tout chaud partout, c'est... Ah ouais, non, c'est trop bien, mais elle me gêne, cette Minerve, j'ai plus mal, en fait. Et c'était chez vous, hein ? Parce que la Migros de Chaux-de-Fonds, c'est la vôtre, c'est pas la mienne, hein ? C'est égal. C'était sur votre territoire. Mais la prise de risque, c'est un succès. Et même si elle m'avait dit, oh ben on verra, peut-être que ça ira mieux demain, je prendrai des médicaments, j'irai voir un rebouteux. Même si elle m'avait dit ça, c'est un succès. Parce que j'ai pris le risque. C'est une petite astuce de rien du tout, mais prendre la main des gens, ça marche super bien. Parce que vous dites, ah, donnez-moi votre main, les gens, ils sont là, ah, elle va lire les lignes de ma main, ils sont super confiants, ils vous donnent la main, et là, paf, vous les avez. Vous êtes en train d'imposer les mains. Vous êtes en train d'imposer les mains. Dans le nom de Jésus, sois fortifié, le gars, il est là. Ok. Mais les gens sont tout à fait ouverts, je l'ai déjà fait plein de fois, même des fois dans des situations où je me dis, oh là là. Mon mari, à chaque fois, ça le fait rire. Une fois, je l'ai fait sur une plage. Un gars qui avait un stand de château gonflable pour les enfants. Et puis, j'avais à cœur d'aller prier pour lui. Et puis, je suis allée, puis j'ai dit, donnez-moi votre main. Et il y avait sa copine à côté qui me regardait. Puis, j'ai dit, je proclame le succès sur votre entreprise. Le gars était là. Oh, bah ça, c'est sympa. Sa copine, elle est arrivée toute souriante, du coup. Ah, ça va, c'est sympa. C'est cool, c'est détendu. Et puis, j'ai pu partager avec lui, parce que du coup, après, il a posé des questions. C'est une bonne astuce, ça. Vous prenez la main des gens. Ah, bonjour, comment ça va ? Clac, vous l'avez. Sois béni dans le nom de Jésus. Il ne peut plus partir, le gars. Ok. Osez prendre un risque. Vous savez quoi ? Dieu voit. Écoutez ça. Dieu voit les gens qui vont changer le monde parce que vous avez décidé de prendre le risque de changer votre vie. Ce qui a changé la vie d'une personne, qui a changé la vie d'une autre personne, qui a changé la vie d'une troisième ou quatrième personne, qui a changé le monde. Et quand moi je regarde dans ma main, ce que je vois, c'est mes enfants, les gens de mon église, ceux auxquels je peux partager dans des circonstances comme aujourd'hui. Et je ne peux pas vraiment deviner ce qui se passe après avec ce que j'ai semé. Mais Dieu connaît à la cinquième, sixième, septième génération de gens qui vont changer le monde parce que moi, je me suis levée. On n'ose plus rester assis. Parce qu'en fait, on n'est pas en sécurité. J'ai plus de temps, j'avais plein d'autres trucs à dire, mais c'est fini. Je veux juste encore vous encourager à libérer des paroles de foi, justement quand vous avez la main des gens dans votre main. Libérez des paroles de foi pour eux. Parce qu'on a un Dieu de miracle. Et dites-le, parce que ça ne fait pas de mal. Tu sais, Jésus t'aime, il est capable de faire une différence. Je le sais, je l'ai vu dans ma vie. Et moi, je libère cette différence dans ta vie. T'as besoin de combien ? 100 000 francs, tu sais quoi, Dieu, il les a. Il va vendre une vache, il va te donner l'argent. Ça, c'était Corrie ten Boom qui disait ça. Il va vendre une vache ou deux et il me donnera l'argent. Il est capable. Libérez des paroles de foi. Parce que Dieu, il a plaisir à nous voir faire ça et il les honore. Et c'est la meilleure façon de voir des miracles autour de vous. Alors, chère Église, connaissons le cœur de Dieu, notre Papa. Parce qu'une fois qu'on le connaît, on n'a plus un esprit de crainte, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Amen.
Juste pour vous encourager, un petit témoignage pendant qu'elle parlait. Il y a un jeune qui était à l'église au Locle, et puis que je suis arrivé, je me disais, ouf, il y a du boulot chez lui. Et puis j'ai eu à cœur, et puis des fois tu vois juste ces gens, puis typiquement tu leur prends la main, tu as juste à cœur de les encourager. Et puis maintenant, ce gars-là, il est pasteur. C'est le pasteur de l'église Hillsong Genève. Ils ont une croissance énorme. Il y a plein de baptêmes, plein de conversions. Puis certains disent, oh, bah, il se la pète maintenant, il est pasteur Hillsong, etc. J'ai entendu ça. Alors soit tu peux dire, en disant, oh, bah, moi je me souviens comme il était avant, puis maintenant je vois comme il se la pète maintenant. Soit tu peux voir en disant, waouh! Ce que le Seigneur a fait, et quand juste tu es là pour encourager une personne, juste pour la le bénir, dire, ah, viens avec moi à tel séminaire, ou viens, ah ouais, tiens, il y a tel orateur, ou il y a telle soirée louange, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans sa vie, est-ce que ça peut changer les vies de plein d'autres personnes à la suite. Donc voilà, ayons cette foi-là.
Merci Aude pour ton message, et merci David et Aude pour vos encouragements. Bah, dis donc, c'était vivant ce matin, hein.